Françoise ne se trompait pas moins sur Saint-Loup. Quand elle disait qu'il avait l'air comme ça de ne pas dédaigner le peuple, mais que ce n'était pas vrai, et qu'il n'y avait qu'à le voir quand il était en colère après son cocher. Il était arrivé en effet quelquefois à Robert de le gronder avec une certaine rudesse qui prouvait chez lui moins le sentiment de la différence que de l'égalité entre les classes. Mais, me dit-il en réponse aux reproches que je lui faisais d'avoir traité un peu durement ce cocher, pourquoi affecterais-je de lui parler poliment? N'est-il pas mon égal? N'est-il pas aussi près de moi que mes oncles ou mes cousins? Vous avez l'air de trouver que je devrais le traiter avec égard comme un inférieur. Vous parlez comme un aristocrate, ajouta-t-il avec dédain. En effet, s'il y avait une classe contre laquelle il eût de la prévention et de la partialité, c'était l'aristocratie. Et jusqu'à croire aussi difficilement à la supériorité d'un homme du monde qu'il croyait facilement à celle d'un homme du peuple. Comme je lui parlais de la princesse de Luxembourg que j'avais rencontrée avec sa tante, « Une carpe, me dit-il, comme toutes ses pareilles. C'est d'ailleurs un peu ma cousine. » Ayant un préjugé contre les gens qui le fréquentaient, il allait rarement dans le monde, et l'attitude méprisante ou hostile qu'il y prenait augmentait encore chez tous ses proches parents le chagrin de sa liaison avec une femme de théâtre, liaison qu'ils accusaient de lui être fatale, et notamment d'avoir développé chez lui cet esprit de dénigrement, ce mauvais esprit, de l'avoir dévoyé en attendant qu'il se déclassât complètement. Aussi, bien des hommes légers du faubourg Saint-Germain étaient-ils sans pitié quand ils parlaient de la maîtresse de Robert. Les grues font leur métier, disait-on. Elles valent autant que d'autres. Mais celle-là, non, nous ne lui pardonnerons pas. Elle a fait trop de mal à quelqu'un que nous aimons. Certes, il n'était pas le premier qui eut un fil à la patte. Mais les autres s'amusaient en hommes du monde, continuaient à penser en hommes du monde sur la politique, sur tout. Lui, sa famille le trouvait aigri. Elle ne se rendait pas compte que pour bien des jeunes gens du monde, lesquels sans cela resteraient incultes d'esprit, rudes dans leurs amitiés, sans douceur et sans goût, c'est bien souvent leur maîtresse qui est leur vrai maître, et les liaisons de ce genre, la seule école de morale où ils soient initiés à une culture supérieure, où ils apprennent le prix des connaissances désintéressées. Même dans le bas peuple, qui, au point de vue de la grossièreté, ressemble si souvent au grand monde, la femme, plus sensible, plus fine, plus oisive, a la curiosité de certaines délicatesses, respecte certaines beautés de sentiments et d'art que, ne les comprit-elle pas, elle place pourtant au-dessus de ce qui semblait le plus désirable à l'homme, l'argent, la situation. Or, qu'il s'agisse de la maîtresse d'un jeune clubman comme Saint-Loup ou d'un jeune ouvrier, les électriciens, par exemple, comptent aujourd'hui dans les rangs de la chevalerie véritable, son amant a pour elle trop d'admiration et de respect pour ne pas les étendre à ce qu'elle-même respecte et admire, et pour lui, l'échelle des valeurs s'en trouve renversée. À cause de son sexe même, elle est faible. Elle a des troubles nerveux inexplicables, qui, chez un homme et même chez une autre femme, chez une femme dont il est neveu ou cousin, auraient fait sourire ce jeune homme robuste. Mais il ne peut voir souffrir celle qu'il aime. Le jeune noble qui, comme Saint-Loup, a une maîtresse, prend l'habitude, quand il va dîner avec elle au cabaret, d'avoir dans sa poche le valérianate dont elle peut avoir besoin, d'enjoindre au garçon avec force et sans ironie de faire attention à fermer les portes sans bruit, à ne pas mettre de mousse humide sur la table, afin d'éviter à son ami ces malaises que, pour sa part, il n'a jamais ressentis, qui composent pour lui un monde occulte à la réalité duquel elle lui a appris à croire, malaise qu'il plaint maintenant sans avoir besoin pour cela de les connaître, qu'il plaindra même quand ce sera d'autres qu'elle qui les ressentiront. La maîtresse de Saint-Loup, comme les premiers moines du Moyen-Âge à la chrétienté, lui avait enseigné la pitié envers les animaux, car elle en avait la passion, ne se déplaçant jamais sans son chien, ses serins, ses perroquets. Saint-Loup veillait sur eux avec des soins maternels et traitait de brutes les gens qui ne sont pas bons avec les bêtes. D'autre part, une actrice, ou soi-disant elle, comme celle qui vivait avec lui, qu'elle fût intelligente ou non, ce que j'ignorais, en lui faisant trouver ennuyeuse la société des femmes du monde, et considérer comme une corvée l'obligation d'aller dans une soirée, l'avait préservée du snobisme et guérie de la frivolité. Si grâce à elle les relations mondaines tenaient moins de place dans la vie de son jeune amant, en revanche, tandis que s'il avait été un simple homme de salon, la vanité ou l'intérêt auraient dirigé ses amitiés comme la rudesse les aurait empreintes, sa maîtresse lui avait appris à y mettre de la noblesse et du raffinement. Avec son instinct de femme, et appréciant plus chez les hommes certaines qualités de sensibilité que son amant eût peut-être sans elle méconnues ou plaisantées, elle avait toujours vite fait de distinguer entre les autres celui des amis de Saint-Loup qui avait pour lui une affection vraie, et de le préférer. Elle savait le forcer à éprouver pour celui-là de la reconnaissance, à la lui témoigner, à remarquer les choses qui lui faisaient plaisir, celles qui lui faisaient de la peine. Et bientôt Saint-Loup, sans plus avoir besoin qu'elle l'avertît, commença à se soucier de tout cela, et à Balbec où elle n'était pas, pour moi qu'elle n'avait jamais vu et dont il ne lui avait même peut-être pas encore parlé dans ses lettres, de lui-même il fermait la fenêtre d'une voiture où j'étais, emportait les fleurs qui me faisaient mal et, quand il eut à dire au revoir à la fois à plusieurs personnes à son départ, s'arrangea à les quitter un peu plus tôt afin de rester seule et en dernier avec moi, de mettre cette différence entre elle et moi, de me traiter autrement que les autres. Sa maîtresse avait ouvert son esprit à l'invisible. Elle avait mis du sérieux dans sa vie, des délicatesses dans son cœur. Mais tout cela échappait à la famille en larmes qui répétait « Cette gueuse le tuera et en attendant elle le déshonore ». Il est vrai qu'il avait fini de tirer d'elle tout le bien qu'elle pouvait lui faire. Et maintenant elle était cause seulement qu'il souffrait sans cesse, car elle l'avait pris en horreur et le torturait. Elle avait commencé, un beau jour, à le trouver bête et ridicule parce que les amis qu'elle avait parmi de jeunes auteurs et acteurs lui avaient assuré qu'il l'était. Et elle répétait à son tour ce qu'ils avaient dit, avec cette passion, cette absence de réserve qu'on montre chaque fois qu'on reçoit du dehors et qu'on adopte des opinions ou des usages qu'on ignorait entièrement. Elle professait volontiers comme ses comédiens qu'entre elle et Saint-Loup le fossé était infranchissable parce qu'ils étaient d'une autre race, qu'elle était une intellectuelle et que lui, quoi qu'il prétendît, était de naissance un ennemi de l'intelligence. Cette vue lui semblait profonde et elle en cherchait la vérification dans les paroles les plus insignifiantes, les moindres gestes de son amant. Mais quand les mêmes amis l'eurent en outre convaincue qu'elle détruisait dans une compagnie aussi peu faite pour elle les grandes espérances qu'elle avait, disait-il, données, que son amant finirait par déteindre sur elle, qu'à vivre avec lui elle gâchait son avenir d'artiste, à son mépris pour Saint-Loup s'ajouta la même haine que s'il s'était obstiné à vouloir lui inoculer une maladie mortelle. Elle le voyait le moins possible, tout en reculant encore le moment d'une rupture définitive, laquelle me paraissait à moi bien peu vraisemblable. Saint-Loup faisait pour elle de tels sacrifices que, à moins qu'elle fût ravissante, mais il n'avait jamais voulu me montrer sa photographie, me disant « D'abord, ce n'est pas une beauté, et puis elle vient mal en photographie. Ce sont des instantanés que j'ai fait moi-même avec mon Kodak, et il vous donnerait une fausse idée d'elle. » Il semblait difficile qu'elle trouvât un second homme qui en consentît de semblable. Je ne songeais pas qu'une certaine toquade de se faire un nom, même quand on n'a pas de talent, que l'estime, rien que l'estime privée de personnes qui vous imposent, peuvent... Ce n'était peut-être du reste pas le cas pour la maîtresse de Saint-Loup, être même pour une petite cocotte des motifs plus déterminants que le plaisir de gagner de l'argent. Saint-Loup, qui, sans bien comprendre ce qui se passait dans la pensée de sa maîtresse, ne la croyait pas complètement sincère, ni dans les reproches injustes, ni dans les promesses d'amour éternel, avait pourtant à certains moments le sentiment qu'elle romprait quand elle le pourrait, et à cause de cela, mue sans doute par l'instinct de conservation de son amour, plus clairvoyant peut-être que Saint-Loup n'était lui-même, usant d'ailleurs d'une habileté pratique qui se conciliait chez lui avec les plus grands et les plus aveugles élans du cœur, Il s'était refusé à lui constituer un capital, avait emprunté un argent énorme pour qu'elle ne manquât de rien, mais ne le lui remettait qu'au jour le jour. Et sans doute, au cas où elle eût vraiment songé à le quitter, attendait-elle froidement d'avoir fait sa pelote, ce qui, avec les sommes données par Saint-Loup, demanderait sans doute un temps fort court, mais tout de même concédé en supplément pour prolonger le bonheur de mon nouvel ami ou son malheur. Cette période dramatique de leur liaison, et qui était arrivée maintenant à son point le plus aigu, le plus cruel pour Saint-Loup, car elle lui avait défendu de rester à Paris où sa présence l'exaspérait et l'avait forcé de prendre son congé à Balbec à côté de sa garnison, avait commencé un soir chez une tante de Saint-Loup, lequel avait obtenu d'elle que son ami viendrait pour de nombreux invités dire des fragments d'une pièce symboliste qu'elle avait jouée une fois sur une scène d'avant-garde et pour laquelle elle lui avait fait partager l'admiration qu'elle éprouvait elle-même. Mais quand elle était apparue, un grand lys à la main, dans un costume copié de l'Anquilla Domini, et qu'elle avait persuadé à Robert être une véritable vision d'art, son entrée avait été accueillie dans cette assemblée d'hommes de cercle et de duchesses par des sourires que le ton monotone de la psalmodie, la bizarrerie de certains mots, leurs fréquentes répétitions, avaient changé en fou rire d'abord étouffé, puis si irrésistible que la pauvre récitante n'avait pu continuer. Le lendemain, la tante de Saint-Loup avait été unanimement blâmée d'avoir laissé paraître chez elle une artiste aussi grotesque. Un duc bien connu ne lui cacha pas qu'elle n'avait à s'en prendre qu'à elle-même si elle se faisait critiquer. « Que diable aussi ! On ne nous sort pas des numéros de cette force-là ! Si encore cette femme avait du talent ! Mais elle n'en a et n'en aura jamais aucun ! Sapristi ! Paris n'est pas si bête qu'on veut bien le dire ! La société n'est pas composée que d'imbéciles ! Cette petite demoiselle a évidemment cru étonner Paris. Mais Paris est plus difficile à étonner que cela, et il y a tout de même des affaires qu'on ne nous fera pas avaler. » Quant à l'artiste, elle sortit en disant à Saint-Loup « Chez quelle dinde, chez quelle garce sans éducation, chez quel goujat m'as-tu fourvoyé ? J'aime mieux te le dire. Il n'y en avait pas un, des hommes présents, qui ne m'eût fait de l'œil, du pied, et c'est parce que j'ai repoussé leurs avances qu'ils ont cherché à se venger. » Parole qui avait changé l'antipathie de Robert pour les gens du monde en une horreur autrement profonde et douloureuse, et que lui inspiraient particulièrement ceux qui la méritaient le moins, des parents dévoués qui, délégués par la famille, avaient cherché à persuader à l'ami de Saint-Loup de rompre avec lui, démarche qu'elle lui présentait comme inspirée par leur amour pour elle. Robert, quoiqu'il eût aussitôt cessé de les fréquenter, pensait, quand il était loin de son ami comme maintenant, que ou d'autres en profitaient pour revenir à la charge et avaient peut-être reçu ses faveurs. Et quand il parlait des viveurs qui trompent leurs amis, cherchent à corrompre les femmes, tâchent de les faire venir dans des maisons de passe, son visage respirait la souffrance et la haine. « Je les tuerais avec moins de remords qu'un chien qui est du moins une bête gentille, loyale et fidèle. En voilà qui mérite la guillotine, plus que des malheureux qui ont été conduits au crime par la misère et par la cruauté des riches. » Il passait la plus grande partie de son temps à envoyer à sa maîtresse des lettres et des dépêches. Chaque fois que, tout en l'empêchant de venir à Paris, elle trouvait à distance le moyen d'avoir une brouille avec lui, je l'apprenais de sa figure décomposée. Comme sa maîtresse ne lui disait jamais ce qu'elle avait à lui reprocher, soupçonnant que peut-être si elle ne le lui disait pas, c'est qu'elle ne le savait pas et qu'elle avait simplement assez de lui, il aurait pourtant voulu avoir des explications. Il lui écrivait « Dis-moi ce que j'ai fait de mal, je suis prêt à reconnaître mes torts. » Le chagrin qu'il éprouvait ayant pour effet de le persuader qu'il avait mal agi. Mais elle lui faisait attendre indéfiniment des réponses d'ailleurs dénuées de sens. Aussi, c'est presque toujours le front soucieux et bien souvent les mains vides que je voyais Saint-Loup revenir de la poste où, seul de tout l'hôtel avec Françoise, il allait chercher ou porter lui-même ses lettres, lui par impatience d'amant, elle par méfiance de domestique. Les dépêches le forçaient à faire beaucoup plus de chemin. Quand, quelques jours après le dîner chez les Blocs, Ma grand-mère me dit d'un air joyeux que Saint-Loup venait de lui demander si, avant qu'il quittât Balbec, elle ne voulait pas qu'il la photographiât. Et quand je vis qu'elle avait mis pour cela sa plus belle toilette et hésitait entre diverses coiffures, je me sentis un peu irritée de cet enfantillage qui m'étonnait tellement de sa part. J'en arrivais même à me demander si je ne m'étais pas trompée sur ma grand-mère, si je ne la plaçais pas trop haut, si elle était aussi détachée que j'avais toujours cru de ce qui concernait sa personne, si elle n'avait pas ce que je croyais lui être le plus étranger, de la coquetterie. Malheureusement, ce mécontentement que me causait le projet de séance photographique et surtout la satisfaction que ma grand-mère paraissait en ressentir, je le laissais suffisamment apercevoir pour que Françoise le remarquât et s'empressa involontairement de l'accroître en me tenant un discours sentimental et attendri auquel je ne voulus pas avoir l'air d'adhérer. « Oh, monsieur, cette pauvre madame qui sera si heureuse qu'on tire son portrait !» Et qu'elle va même mettre le chapeau que sa vieille Françoise, elle lui a arrangé. Il faut la laisser faire, monsieur. » Je me convainquis que je n'étais pas cruelle de me moquer de la sensibilité de Françoise, en me rappelant que ma mère et ma grand-mère, mes modèles en tout, le faisaient souvent aussi. Mais ma grand-mère, s'apercevant que j'avais l'air ennuyée, me dit que si cette séance de pose pouvait me contrarier, elle y renoncerait. Je ne voulus pas. Je l'assurai que je n'y voyais aucun inconvénient et la laissai se faire belle, mais crus faire preuve de pénétration et de force en lui disant quelques paroles ironiques et blessantes, destinées à neutraliser le plaisir qu'elle semblait trouver à être photographiée, de sorte que, si je fus contraint de voir le magnifique chapeau de ma grand-mère, je réussis du moins à faire disparaître de son visage cette expression joyeuse qui aurait dû me rendre heureux et qui, comme il arrive trop souvent tant que sont encore en vie les êtres que nous aimons le mieux, nous apparaît comme la manifestation exaspérante d'un travers mesquin plutôt que comme la forme précieuse du bonheur que nous voudrions tant leur procurer. Ma mauvaise humeur venait surtout de ce que, cette semaine-là, ma grand-mère avait paru me fuir, et que je n'avais pu la voir un instant à moi, pas plus le jour que le soir. Quand je rentrais dans l'après-midi pour être un peu seule avec elle, on me disait qu'elle n'était pas là, ou bien elle s'enfermait avec Françoise pour de longs conciliabules qu'il ne m'était pas permis de troubler. Et quand, ayant passé la soirée dehors avec Saint-Loup, je songeais pendant le trajet du retour au moment où j'allais pouvoir retrouver et embrasser ma grand-mère, j'avais beau attendre qu'elle frappât contre la cloison ses petits coups qui me diraient d'entrer lui dire bonsoir, je n'entendais rien. Je finissais par me coucher, lui en voulant un peu de ce qu'elle me priva, avec une indifférence si nouvelle de sa part, d'une joie sur laquelle j'avais tant compté. Je restais encore, le cœur palpitant comme dans mon enfance, à écouter le mur qui restait muet, et je m'endormais dans les larmes. Ce jour-là, comme les précédents, Saint-Loup avait été obligé d'aller à Doncières où, en attendant qu'il rentrât d'une manière définitive, on aurait toujours besoin de lui maintenant jusqu'à la fin de l'après-midi. Je regrettais qu'il ne fût pas à Balbec. J'avais vu descendre de voiture et entrer, les unes dans la salle de danse du casino, les autres chez le glacier, des jeunes femmes qui, de loin, m'avaient paru ravissantes. J'étais dans une de ces périodes de la jeunesse dépourvue d'un amour particulier, vacante, où partout, comme un amoureux, la femme dont il est épris, on désire, on cherche, on voit la beauté. Qu'un seul trait réel, le peu qu'on distingue d'une femme vue de loin ou de dos, nous permette de projeter la beauté devant nous, nous nous figurons l'avoir reconnue. Notre cœur bat, nous pressons le pas, et nous restons toujours à demi persuadés que c'était elle, pourvu que la femme ait disparu. Ce n'est que si nous pouvons la rattraper que nous comprenons notre erreur. D'ailleurs, de plus en plus souffrant, j'étais tenté de surfaire les plaisirs les plus simples à cause des difficultés même qu'il y avait pour moi à les atteindre. Des femmes élégantes, je croyais en apercevoir partout, parce que j'étais trop fatiguée si c'était sur la plage, trop timide si c'était au casino ou dans une pâtisserie pour les approcher nulle part. Pourtant, si je devais bientôt mourir, j'aurais aimé savoir comment étaient faites de près, en réalité, les plus jolies jeunes filles que la vie pût offrir, quand même c'eût été un autre que moi, ou même personne, qui dût profiter de cette offre. Je ne me rendais pas compte, en effet, qu'il y avait un désir de possession à l'origine de ma curiosité. J'aurais osé entrer dans la salle de bal si Saint-Loup avait été avec moi. Seul, je restais simplement devant le grand autel, à attendre le moment d'aller retrouver ma grand-mère, quand, presque encore à l'extrémité de la digue où elle faisait mouvoir une tache singulière, je vis s'avancer 5 ou 6 fillettes, aussi différentes, par l'aspect et par les façons, de toutes les personnes auxquelles on était accoutumé à Balbec, qu'aurait pu l'être, débarquée on ne sait d'où, une bande de mouettes qui exécute à pas compter sur la plage, les retardataires rattrapant les autres en voletant, une promenade dont le but semble aussi obscur aux baigneurs qu'elles ne paraissent pas voir, que clairement déterminée pour leur esprit d'oiseau. Une de ces inconnues poussait devant elle de la main sa bicyclette. 2 autres tenaient des clubs de golf, et leur accoutrement tranchait sur celui des autres jeunes filles de Balbec, parmi lesquelles quelques-unes, il est vrai, se livraient au sport, mais sans adopter pour cela une tenue spéciale. C'était l'heure où dames et messieurs venaient tous les jours faire leur tour de digue, exposés au feu impitoyable du face-à-main que fixait sur eux, comme s'ils eussent été porteurs de quelque tare qu'elle tenait à inspecter dans ses moindres détails, la femme du premier président, fièrement assise devant le kiosque de musique, au milieu de cette rangée de chaises redoutées où eux-mêmes tout à l'heure, d'acteurs devenus critiques, viendraient s'installer pour juger à leur tour ceux qui défileraient devant eux. Tous ces gens qui longeaient la digue en tanguant aussi fort que si elle avait été le pont d'un bateau, car ils ne savaient pas lever une jambe sans du même coup remuer le bras, tourner les yeux, remettre d'aplomb leurs épaules, compenser par un mouvement balancé du côté opposé le mouvement qu'ils venaient de faire de l'autre côté et congestionner leur face, faisant semblant de ne pas voir, pour faire croire qu'ils ne se souciaient pas d'elle, mais regardant à la dérobée pour ne pas risquer de les heurter, les personnes qui marchaient à leur côté ou venaient en sens inverse, butaient au contraire contre elle, s'accrochaient à elle, parce qu'ils avaient été réciproquement de leur part l'objet de la même attention secrète, cachée sous le même dédain apparent. L'amour, par conséquent la crainte de la foule, étant un des plus puissants mobiles chez tous les hommes, soit qu'ils cherchent à plaire aux autres ou à les étonner, soit à leur montrer qu'ils les méprisent, chez le solitaire, la claustration même absolue et durant jusqu'à la fin de la vie a souvent pour principe un amour déréglé de la foule qui l'emporte tellement sur tout autre sentiment que, ne pouvant obtenir, quand il sort, l'admiration de la concierge, des passants, du cocher arrêté, il préfère n'être jamais vu d'eux et pour cela renoncer à toute activité qui rendrait nécessaire de sortir. Au milieu de tous ces gens dont quelques-uns poursuivaient une pensée, mais en trahissaient alors la mobilité par une saccade de gestes, une divagation de regard aussi peu harmonieuse que la circonspecte titubation de leurs voisins, les fillettes que j'avais aperçues avec la maîtrise de gestes que donne un parfait assouplissement de son propre corps et un mépris sincère du reste de l'humanité, venaient droit devant elles, sans hésitation ni raideur, exécutant exactement les mouvements qu'elles voulaient, dans une pleine indépendance de chacun de leurs membres par rapport aux autres, la plus grande partie de leur corps gardant cette immobilité si remarquable chez les bonnes valseuses. Elles n'étaient plus loin de moi. Quoique chacune fût d'un type absolument différent des autres, elles avaient toutes de la beauté, mais à vrai dire, je les voyais depuis si peu d'instants et sans oser les regarder fixement, que je n'avais encore individualisé aucune d'elles. Sauf une que son nez droit, sa peau brune, mettait en contraste au milieu des autres comme, dans quelque tableau de la Renaissance, un roi mage de type arabe, elle ne m'était connue, l'une que par une paire d'yeux durs, butés et rieurs, une autre que par des joues où le rose avait cette teinte cuivrée qui évoque l'idée de géranium, et même ses traits, Je n'avais encore indissolublement attaché aucun d'entre eux à l'une des jeunes filles plutôt qu'à l'autre, et quand, selon l'ordre dans lequel se déroulait cet ensemble, merveilleux parce qu'il voisinait les aspects les plus différents, que toutes les gammes de couleurs y étaient rapprochées, mais qui étaient confus comme une musique où je n'aurais pas su isoler, reconnaître, au moment de leur passage, les phrases distinguées mais oubliées aussitôt après, je voyais émerger un ovale blanc, des yeux noirs, des yeux verts. Je ne savais pas si c'étaient les mêmes qui m'avaient déjà apporté du charme tout à l'heure. Je ne pouvais pas les rapporter à telle jeune fille que j'eusse séparée des autres et reconnue. Et cette absence, dans ma vision, des démarcations que j'établirais bientôt entre elles, propageait à travers leur groupe un flottement harmonieux, la translation continue d'une beauté fluide, collective et mobile. Ce n'était peut-être pas dans la vie le hasard seul qui, pour réunir ses amis, les avait toutes choisies si belles. Peut-être ces filles, dont l'attitude suffisait à révéler la nature hardie, frivole et dure, extrêmement sensibles à tout ridicule et à toute laideur, incapables de subir un attrait d'ordre intellectuel ou moral, s'étaient-elles naturellement trouvées parmi les camarades de leur âge, éprouvées de la répulsion pour toutes celles chez qui des dispositions pensives ou sensibles se trahissaient par de la timidité, de la gêne, de la gaucherie, parce qu'elles devaient appeler à un genre antipathique, et les avaient-elles tenues à l'écart, tandis qu'elles s'étaient liées au contraire avec d'autres vers qui les attirait un certain mélange de grâce, de souplesse et d'élégance physique, seule forme sous laquelle elles pussent se représenter la franchise d'un caractère séduisant et la promesse de bonnes heures à passer ensemble. Peut-être aussi la classe à laquelle elles appartenaient, et que je n'aurais pu préciser, était-elle à ce point de son évolution où, soit grâce à l'enrichissement et au loisir, soit grâce aux habitudes nouvelles de sport répandues même dans certains milieux populaires, et d'une culture physique à laquelle ne s'est pas encore ajoutée celle de l'intelligence, un milieu social pareil aux écoles de sculpture harmonieuses et fécondes qui ne recherchent pas encore l'expression tourmentée, produit naturellement et en abondance de beaux corps aux belles jambes, aux belles hanches, aux visages sains et reposés, avec un air d'agilité et de ruse. Et n'était-ce pas de nobles et calmes modèles de beauté humaine que je voyais là, devant la mer, comme des statues exposées au soleil sur un rivage de la Grèce? Telles que si, du sein de leur bande qui progressait le long de la digue comme une lumineuse comète, elles eussent jugé que la foule environnante était composée d'êtres d'une autre race, et dont la souffrance même n'eût pu éveiller en elle un sentiment de solidarité, elles ne paraissaient pas la voir, forçaient les personnes arrêtées à s'écarter ainsi que sur le passage d'une machine qui eût été lâchée et dont il ne fallait pas attendre qu'elle évitât les piétons, et se contentaient tout au plus si quelque vieux monsieur dont elles n'admettaient pas l'existence et dont elles repoussaient le contact s'était enfui avec des mouvements craintifs ou furieux, mais précipités et risibles, de se regarder entre elles en riant. Elles n'avaient à l'égard de ceux qui n'étaient pas de leur groupe aucune affectation de mépris, leur mépris sincère suffisait. Mais elles ne pouvaient voir un obstacle sans s'amuser à le franchir en prenant leur élan ou à pieds joints, parce qu'elles étaient toutes remplies, exubérantes, de cette jeunesse qu'on a si grand besoin de dépenser que, même quand on est triste ou souffrant, obéissant plus aux nécessités de l'âge qu'à l'humeur de la journée, on ne laisse jamais passer une occasion de saut ou de glissade sans s'y livrer consciencieusement, interrompant, semant sa marche lente, comme Chopin la phrase la plus mélancolique, de gracieux détours où le caprice se mêle à la virtuosité. La femme d'un vieux banquier, après avoir hésité pour son mari entre diverses expositions, l'avait assis sur un pliant face à la digue, abrité du vent et du soleil par le kiosque des musiciens. Le voyant bien installé, elle venait de le quitter pour aller lui acheter un journal qu'elle lui lirait et qui le distrairait. Petites absences pendant lesquelles elle le laissait seul et qu'elle ne prolongeait jamais au-delà de 5 minutes, ce qui lui semblait déjà bien long, mais qu'elle renouvelait assez fréquemment pour que le vieil époux, à qui elle prodiguait à la fois et dissimulait ses soins, eut l'impression qu'il était encore en état de vivre comme tout le monde et n'avait nul besoin de protection. La tribune des musiciens formait au-dessus de lui un tremplin naturel et tentant, sur lequel, sans une hésitation, l'aîné de la petite bande se mit à courir, et elle sauta par-dessus le vieillard épouvanté, dont la casquette marine fut effleurée par les pieds agiles, au grand amusement des autres jeunes filles, surtout de 2 yeux verts dans une figure poupine, qui exprimèrent pour cet acte une admiration et une gaieté où je crus discerner un peu de timidité, d'une timidité honteuse et fanfaronne qui n'existait pas chez les autres. « Ce pauvre vieux, il me fait de la peine, il a l'air à moitié crevé », dit l'une de ses filles d'une voix rogomeuse et avec un accent à demi ironique. Elles firent quelques pas encore, puis s'arrêtèrent un moment au milieu du chemin, sans s'occuper d'arrêter la circulation des passants, en un agrégat de formes irrégulières, compactes, insolites et piaillants, comme un conciliabule d'oiseaux qui s'assemble au moment de s'envoler. Puis elles reprirent leur lente promenade le long de la digue, au-dessus de la mer.